Voilà, et nous ouvrons tout de suite la première série de questions par Goma. Deux questions, s'il vous plaît, à Goma. Parce que je ne vois pas beaucoup d'engouement à Kinshasa pour l'instant. Ça viendra avec le temps, sans doute.
Merci pour la parole. C'est Hortense Tabakou, Digital Congo. J'adresse ma question à M. Richard de la Falaise. Depuis autant d'années, nous avons vu que Starec, vous allez d'atelier en atelier, des plans, des stratégies et, je ne sais pas, élaboration des plans et autres. Et aujourd'hui, même vous êtes à Kinshasa pour parler encore une fois d'un atelier. Est-ce qu'en peu de mots, vous pouvez au moins nous dire, nous sommes avec vous à Goma, vous pouvez revenir au moins sur quelques réalisations que vous avez faites, Starec. Merci.
En deux mots, quelques mots sur la stabilisation. Qu'est-ce que vous avez fait depuis ?
Alors, merci madame pour cette première question. C'est vraiment une très bonne question pour lancer le sujet. Donc, de 2008 à 2012, la stabilisation a mis en place 69 projets par le Starec, qui était en charge avec nous, bien sûr, pour une somme de 367 millions de dollars. Donc, vous avez eu quand même beaucoup de projets qui ont été remis aux autorités, qui ont fait un excellent travail pour pour avoir ces projets en province orientale, Nord Kivu et Sud Kivu. Malheureusement, en 2012, nous nous sommes rendus compte qu'il n'y avait pas encore beaucoup de stabilisation, ce qui nous a amené à réviser, sur les ordres du Conseil de sécurité, de réviser cette stratégie. Donc de 2012, fin 2013, disons, on a révisé et on a opérationnalisé. Pour votre information, donc, l'opérationnalisation a déjà commencé. Deux projets de la nouvelle stratégie I4S sont déjà en œuvre. Un premier à Mambasa a été lancé il y a quelques semaines dans la région de Mambasa en province orientale et un deuxième à Kalehe dans le sud Kivu. Donc voilà déjà les premiers projets qui sont sortis et nous avons quand même en ce moment un portfolio à peu près de plus de 50 millions de dollars de projets en cours Starec I4S à travers les trois provinces. J'espère avoir répondu à votre question madame. Merci.
C'est Victor Bigatti, précompte du journal Hebdo de l'Est. Ma question, je l'adresse au colonel Félix Basse. Êtes-vous fier de la victoire des FARDC contre les FDLR, même si la MONUSCO a forcé sa participation dans la aux opérations dans la localité de Tongo? Selon nos sources, les FARDC avaient refusé.
Précisez votre question.
Avaient refusé quoi?
Ma question est la suivante. Votre participation aux opérations forcées.
Bon, on n'a pas bien compris la question ici à Kinshasa. Vous pouvez revenir succinctement dessus.
Oui, ma question est la suivante. Êtes-vous fier? C'est Victor Bigatti pour le compte du journal Hebdo de l'Est. Ma question s'adresse au colonel Félix Basse. Êtes-vous fier de la victoire des FARDC contre les FDLR, même si la MONUSCO a forcé sa participation aux opérations dans la localité de Tongo? Et selon nos sources...
Non, c'est bon, il va répondre à ça.
Ok, d'abord, merci pour la question. C'est juste pour vous dire que nous nous félicitons d'abord du lancement des opérations contre les FDLR par les forces armées de la République démocratique du Congo qui, comme vous le savez, sont les premiers responsables de la sécurité dans ces pays. Nous nous en félicitons, nous continuons à les soutenir moralement, à les soutenir, d'être avec eux de tout cœur, et nous pensons que, même si nous ne prenons pas part, et nous pensons que, compte tenu des développements assez positifs que nous observons aussi bien au niveau des contacts qui sont pris au plus haut niveau, aussi bien politique que militaire, nous pensons que très bientôt nous pourrons apporter notre contribution à ces opérations-là menées par les FARDC afin de mettre un terme aux exactions menées par les FDLR. Je voudrais aussi signaler une chose, c'est qu'il faut rappeler que entre les forces armées de la République démocratique du Congo et la force de la MONUSCO, je peux vous dire qu'il y a un concept qu'il faudra que je vous explique. C'est le concept de la fraternité d'armes. Cette fraternité d'armes, elle existe depuis des années. Cette fraternité d'armes se cultive tous les jours et tous les jours, nous restons en contact avec nos frères d'armes pour venir à bout de ces menaces contre les populations civiles. Parce que n'oubliez pas que nous poursuivons les mêmes objectifs, nous sommes sur le terrain et nous avons les mêmes rôles, les mêmes objectifs. Et nous pensons tout simplement qu'en conjuguant nos efforts, en mettant ensemble aussi bien nos énergies, nous pourrons très bientôt arriver à pacifier l'Est de la République démocratique du Congo. Oui, nous sommes satisfaits des résultats positifs engrangés par nos frères FRDC sur le terrain.
Et je voudrais ajouter ceci. Peut-être que, en tant que journaliste, beaucoup de collègues ont également lu ces déclarations du ministre des Affaires étrangères de la RDC qui, à Jeune Afrique, disait en fin d'interview ceci: nous souhaitons être accompagnés par la MONUSCO parce qu'il est clair qu'elle peut nous apporter un soutien nécessaire sur le plan logistique, parfois même un appui à feu. Et nous sommes beaucoup battus pour le déploiement de la brigade d'intervention en RDC, qui a donc un mandat pour neutraliser ces forces négatives. Donc, nous sommes sur les mêmes longueurs d'onde et nous espérons, comme l'a dit tout à l'heure le colonel, qu'avec les contacts liés au plus haut niveau, au plan diplomatique, au plan politique, au plan militaire, nous pourrons rapidement avoir un terrain d'entente pour nous joindre donc à ces opérations et puis en finir rapidement avec donc ces FDLR qui, pendant 20 ans, ont violé, tué, massacré des gens et ont fait beaucoup de tort à la RDC. Et voilà un peu ce qu'on pouvait dire dessus. Nous reverrons donc tout de suite à Kinshasa pour deux questions. Où sont les micros? Oui, on va prendre. On va commencer par une femme. Hein. Voilà, nous, moi de la femme, on me dit. Allez-y, madame.
Bonjour, je suis Jocelyne Moussaou de Radio Okapi. Je veux revenir sur la question des FDLR. Hein. Nous le savons depuis un temps, hein, que la MONUSCO ne participe pas aux opérations de traque contre les rebelles rwandais FDLR. Cette situation soulève pas mal de questions, notamment sur le rôle de la MONUSCO dans l'élimination, dans le cas de l'élimination de groupes armés et des différentes rébellions. Est-ce que vous pouvez revenir en clair, en bref, sur le rôle qu'a joué la MONUSCO dans différentes rébellions que la RDC a connues? Merci.
Colonel Bass, sans doute, peut-être pour quelques éléments de réponse, quel était effectivement l'apport de la MONUSCO dans le combat contre les différents groupes armés, à commencer par, je ne sais pas, peut-être l'un des plus importants d'eux, le M23 par exemple?
Merci Charles. Avant de répondre à cette question, je voudrais pieusement m'incliner sur la mémoire de tous les gens qui sont morts pendant la campagne menée contre le M23. Aussi bien les civils, aussi bien les gens qui travaillent dans l'humanitaire, les journalistes, mais surtout les populations civiles, en plus des casques bleus et des soldats FRDC qui ont péri pour ramener la paix et neutraliser le M23. Je disais aussi tantôt que le métier des armes, comme je l'ai dit, est un choix de vie. Ce choix de vie est basé sur un sacerdoce, et ce sacerdoce est fondé sur des valeurs qui sont le patriotisme, le don de soi, la solidarité. Donc, nous pouvons tout de suite dire que lors de cette campagne contre le M23, j'inclus même les autorités politiques qui ont eu la délicate tâche de prendre des décisions difficiles à des moments extrêmement importants. Mais au-delà de cela, concernant maintenant le travail sur le terrain qui a été fait entre les forces armées de la République démocratique du Congo et la force de la MONUSCO, je voudrais tout simplement dire aux gens qu'il ne faudra pas oublier une chose. Je pense parler tantôt de la fraternité d'armes qui se noue au fil des défis qui ont été relevés sur le terrain par ces deux entités. Donc, je peux tout simplement vous dire que lors de cette campagne, parce que j'étais sur le terrain, aussi bien à Munigi, à Kibati, à Kibumba, et l'appui qui a été apporté par la force de la MONUSCO jusqu'à Tianzou, Mbuzi, Runyoni, sur toutes ces collines-là, cet apport n'est pas négligeable. Nous ne prétendons pas tirer la couverture sur nous. D'ailleurs, je veux à ce titre, encore une fois, magnifier le comportement exemplaire des forces armées de la République démocratique du Congo, mais aussi je voudrais ici rendre hommage aux populations civiles qui, sans elles, rien n'aurait été possible. Ces populations qui vivent, qui ont vécu les affres de la domination du M23. Alors, donc, juste pour vous dire que Une opération militaire ne se limite pas à une campagne militaire. Elle se fait bien en amont. La planification a été conjointe, ce qui est la phase la plus difficile et la plus délicate. Mais aussi, nous avons eu à mutualiser aussi bien nos efforts, aussi bien nos moyens matériels et humains, mais aussi à mutualiser nos intelligences pour arriver au bout de ce groupe armé avec, comme je l'ai dit, le soutien indéfectible des populations civiles. Donc, madame, votre question est très pertinente et je voudrais tout simplement dire que pendant cette campagne qui a vu la victoire du peuple congolais, pas de la force de la MONUSCO, mais du peuple congolais et de son armée. Pendant cette campagne, des liens très forts ont été noués parce que nous avons vécu ensemble les affres de cette guerre-là. Donc je peux tout simplement vous dire que, compte tenu de la question que vous avez posée, nous avons, dès le début des opérations, participer activement avec les FRDC. Malheureusement, je serai obligé de convoquer à cette conférence de presse la mémoire de deux illustres soldats qui sont le général Mamadou Ndala et le général Bawuma. Je pense que ce qu'on entend dans la presse, et peut-être ce sont peut-être des déclarations, mais vous savez, dans notre formation de militaires, d'abord, nous sommes d'abord astreints à beaucoup plus de modestie et d'humilité parce que nous ne faisons que notre travail. Et la seule satisfaction qu'on en tire, c'est le devoir bien accompli. Donc je peux vous dire tout simplement que le pacte de confiance, FRDC, MONUSCO, population civile a parfaitement fonctionné et nous a prouvé à suffisance que seule l'union pouvait faire la force. C'est à ce titre que nous continuons à faire un plaidoyer pour prendre part à ces opérations que nous avons planifiées ensemble pour réduire à néant les FDLR. Donc, madame, je peux vous dire que nous avons soutenu et accompagné cette opération aussi bien au point de l'engagement de nos troupes sur le terrain. Les forces spéciales tanzaniennes étaient là. L'appui logistique, le partage d'informations, l'appui feu par nos hélicoptères d'attaque, l'appui par nos artilleries. Et c'est coude à coude que nous avons mené cette offensive pour défaire le M23. Donc je voudrais vraiment mettre un terme à toutes ces allégations. La force de la MONUSCO était là avec les FRDC dans une parfaite cohésion, un respect mutuel pour vaincre le M23 et ça a été fait grâce aux populations civiles. Charles, je ne terminerai pas sans vous dire une chose. La seule image qui me reste parce que Le seul juge reste le peuple congolais, c'est lorsque nous avons défait le M23, les femmes du Nord Kivu nous ont remerciés avec la plus grande sincérité. Et pour le traduire, elles ont même étalé leur pagne sur la route pour que nos véhicules passent dessus. Je pense que c'est là que je m'arrête pour vous dire si oui ou non nous avons soutenu ou accompagné cette offensive contre les autres.
Merci, colonel. J'ai cru voir ici ou entendre ici le colonel, le général Wafi d'ailleurs, hein, bien qu'il soit parti. Voilà, nous allons. C'est le mois de la femme, on m'a dit, on va donner la parole à une femme. Hein, ensuite, on viendra aux hommes.
Merci, c'est Marie Amboya pour le compte de Télé7. Vous dites avoir des contacts de haut niveau avec les autorités du pays en ce qui concerne l'attaque de FDLR. Mais ma question est de savoir, plutôt ma préoccupation, nul n'ignore que le mandat de la brigade tenait à prendre fin au mois de mars. Comment allez-vous vous y prendre? Parce que le mandat prend fin, vous faites des contacts de haut niveau. Comment allez-vous vous y prendre? Merci.
Vous savez que chaque année, ces discussions se passent au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies à New York. Et c'est vrai que c'est au mois de novembre. La MONUSCO elle-même a un mandat d'un an renouvelable chaque fois quand c'est nécessaire. Et cela fait 15 ans effectivement que, de façon régulière, le Conseil de sécurité renouvelle son mandat. Quant à ce qui concerne la brigade d'intervention, elle a sa deuxième année d'existence et une fois de plus, le dossier sera examiné au niveau du Conseil de sécurité et puis on s'en tiendra donc à la décision que prendra le Conseil de sécurité des Nations Unies sur cette prolongation ou pas, mais nous espérons que le travail n'est pas fini. Je disais tout à l'heure en lisant M. Tshibanda qu'il disait très bien que il y a eu beaucoup de militantisme ou d'appels pour la création de cette brigade. Est-ce que le travail de la brigade est complètement fini? Nous pensons que non, il existe, n'oubliez pas, encore au-delà des FDLR, au moins une quarantaine de groupes armés dans l'est de la République démocratique du Congo. Donc beaucoup de travail reste à faire, même si on sait que pour certains, c'est des groupes un peu pas très très forts, mais il reste quand même une quarantaine de groupes armés dans l'est de la République qu'il faut quand même combattre et éliminer et voire neutraliser.
Juste pour ajouter, Charles, il faut rappeler que la création de la brigade d'intervention aussi était conditionnée à la mise en place de la brigade de réaction rapide des FRDC, ce qui était un processus qui a été entamé. Et donc, une fois que cette brigade de réaction rapide FRDC sera opérationnelle, la brigade d'intervention sera naturellement appelée à disparaître.
Nous allons prendre une troisième question ici avant d'aller à Goma.
Merci. C'est venant vous dire ça pour la RTNC. Je m'adresse à M. Sylvestre Ntumba Modingay, le temps qu'il me regarde. Monsieur Sylvestre, les autorités du pays ont déclaré ceci, que les FRDC font preuve d'un grand professionnalisme par rapport à la situation dans la partie est du pays. Cependant, tout à l'heure, vous déclariez qu'il y aurait des déplacements massifs. Bref, ils ont dit qu'il n'y a pas de dégâts collatéraux par rapport à cette opération de traque des FDLR. Mon colonel, réduire à néant les FDLR, je ne sais pas si ça peut être possible. Bon, la semaine passée, on a aperçu quelques FDLR du côté de Mambasa. Avec cet éparpillement, est-ce que leur anéantissement sera complet, disons complet? Merci.
Alors les dégâts humanitaires ou l'impact humanitaire de ces opérations contre les FDLR, Sylvestre?
Oui, d'abord, je n'ai pas utilisé le mot de déplacement massif. Ce n'est pas un mot que j'ai utilisé. La vérité sur le terrain est que, c'est vrai, il n'y a pas de confrontation comme telle, mais comme j'ai eu à le dire, les déplacements se font à titre préventif. Vous savez que dans ces zones-là, les populations sont dans une psychose. Ils ont vécu tellement d'atrocités. Et quand une opération est projetée, il y a des ménages, il y a des familles entières qui décident de s'éloigner des zones, des conflits, pour se mettre à l'abri. C'est ainsi que je vous ai dit qu'il y a déjà eu des déplacements observés. Et ces déplacements, je l'ai dit, et c'est bien de le noter, que ces déplacements se font de façon préventive. Et d'ailleurs, j'ai aussi ajouté que dans certaines zones, il commence même à s'observer des retours de population, parce que peut-être les gens craignaient des grosses confrontations. Comme il n'y en a pas, certaines personnes qui s'étaient déplacées commencent à revenir dans leur milieu d'origine.
Et colonel.
Merci. Juste pour vous dire que le fait que les FDLR sont en débandade traduit à suffisance l'effectivité de la pression militaire qui est exercée sur eux. Donc vous avez parlé de Mambasa, oui, ça veut dire qu'ils sont pris en tenaille entre le sud Kivu, le nord Kivu, et il y en a même qui sont actuellement, face à la pression, descendus vers les montagnes de Mitumba, dans le Katanga. Oui, ça veut dire que la traque se poursuit, la pression est maintenue et ensemble avec les FRDC qui sont sur le terrain, je pense que nous mettrons bien sûr un terme aux activités négatives de ce groupe armé car il est vraiment grand temps.
Nous savons que les auditeurs de Radio Capi vont nous quitter. Nous allons cependant poursuivre cette conférence de presse ici pendant 5 à 10 minutes encore. Direction Goma, s'il vous plaît. Je reviens à vous ici. Goma, deux questions, s'il vous plaît.
Oui, merci beaucoup. Mon nom est Christian Ilongo, je suis de B1 Radio et Télévision et du journal La Référence Plus à Kinshasa. Moi, ce que moi je vais poser comme question, en fait, on sait que les FDLR, il y a une partie qui se sont démobilisés volontairement et qui se trouve aujourd'hui à Kisangani. La suite, on n'a pas la suite de ce qui va suivre après leur présence à Kisangani. Aussi, le dimanche, nous étions ici à Goma avec les porte-parole du gouvernement. Ils nous ont présenté, l'armée congolaise, nous ont présenté les FDLR. Parmi eux, il y avait des Congolais et des Rwandais. Parce que moi j'ai posé la question au ministre, il dit que les Congolais seront sanctionnés par rapport à la justice congolaise et les FDLR qui sont capturés par l'armée congolaise Moi, je vais savoir la suite selon la MONUSCO. Merci.
Tout d'abord, par rapport donc à la question des, de Kisangani. Pour la MONUSCO, il est clair que tous les FDLR présents à Kisangani doivent être rapatriés dans leur pays. Nous allons certain nombre d'entre eux ont commencé déjà à être rapatriés, je crois, au Rwanda, mais le processus va se poursuivre. Hein. Le processus va se poursuivre. C'est vrai que nous n'avons pas pour l'instant beaucoup de volontaires au rapatriement, mais c'est peut-être dû au fait que bon, on est dans cette situation un peu où les opérations ont commencé donc au nord et au sud Kivu contre les FDLR. Mais lorsque tout cela va se calmer, je crois que le processus de rapatriement pour nous est cardinal et nous y tenons, car voilà, c'est prévu. Vu ainsi, c'est vrai qu'il y a d'autres possibilités, mais la première option est vraiment le retour au Rwanda. Maintenant, pour ce qui est vraiment de ce que M. Lambert a déclaré lors de sa conférence de presse à Goma le dimanche, je vous demanderai de vous adresser à lui, hein, parce que nous n'étions pas sur place directement pour pouvoir savoir exactement ce qu'il a dit. Donc nous ne pouvons pas réagir ou rebondir sur cette déclaration. Une autre question donc à Goma.
Oui, c'est Olivier Baraka pour le compte de Mishapi Voice TV. Ma question s'adresse au colonel Félix Bass. Est-ce qu'aujourd'hui la MONUSCO peut nous renseigner quant à la localisation de Janvier Karahiri et Tcheka? Est-ce que leur traque constitue une priorité pour la MONUSCO, car on en parle de moins en moins?
Oui, juste pour vous rappeler que tout groupe armé illégal sur le territoire congolais constitue une priorité pour la force de la MONUSCO, car n'oubliez pas que ce groupe armé constitue une menace contre les populations civiles, et la protection de ces mêmes populations civiles constitue le fondement, le socle de notre mandat. Donc oui, Janvier Kariri, aussi bien Janvier Kariri que Tcheka, constituent toujours des menaces qui sont prises très au sérieux. Mais aussi, je voudrais vous rappeler qu'effectivement, peut-être que la priorité des priorités étant les FDLR, mais aussi l'ADF dans le territoire de Beni, je voudrais juste vous rappeler que des actions significatives avaient été menées contre Tcheka, ce qui nous a permis de le dégager de l'axe de Pinga, mais aussi de l'axe Kacheberi-Mpofi. Et quant à Janvier Kariri, rappelez-vous que nous l'avons dégagé du Mont Sinaï et que nous avons capturé Lukweti en le dégageant de toute cette zone-là où il opérait en roue libre. Donc les priorités restent maintenues. Mais comme je dis, la priorité des priorités étant donnée au FDLR, nos autres unités qui sont déployées, notamment le bataillon sud-africain et les FRDC qui sont déployés dans le territoire de Walikale et un peu vers le Lubero et le Masisi, prennent bien en compte la menace de Tcheka. Et il est vrai que Tcheka a été très actif ces temps derniers, mais nous sommes en train de réfléchir voies et moyens, tout en maintenant la pression sur les FDLR, de mettre un terme aux activités négatives de Tcheka dans le territoire de Walikale, particulièrement où des déplacements de population ont été signalés.
Nous revenons ici à Kinshasa pour prendre... Est-ce qu'on a une question sur la stabilisation? Parce qu'on n'a pas toujours la chance d'avoir des experts ou des spécialistes en stabilisation ici. Hein. Est-ce que quelqu'un a une question? Vous? C'est sûr? Bon, allez, donnez-lui le micro, parce que après, s'il part, c'est pas sûr qu'on le reverra bientôt ici à Kinshasa. Donc, il faut en profiter.
Merci, Nkirema et de l'Agence congolaise de presse. Il y a justement 7 ans, on a organisé un atelier à Goma auquel j'ai participé. C'était pour la stabilisation, avant même la dénomination de la MONUSCO. Aujourd'hui, vous parlez de 2 projets.
Et de stratégie. Il a parlé de beaucoup de projets. Hein,
oui, c'est des projets d'un total de 367 millions de dollars. Il y a 7 ans, c'était 200 millions de dollars. Et à peu près 200 millions, dont les Pays-Bas. Je me souviens. Est-ce que ça signifie que vous êtes toujours à la recherche d'une stratégie de stabilisation des régions de l'Est?
Ou est-ce qu'elle existe déjà? Richard existe de la Falaise.
Les chiffres peuvent être très trompeurs. Le budget total de la première phase de l'IK-13 2008 à 2012 était de 367 millions. pour 69 projets, principalement dans la restauration de l'État. Cela veut dire construction de routes, garnisons militaires, commissariats de police, bâtiments administratifs. Ces projets, à hauteur de 90%, ont été remis aux autorités provinciales et nationales. Maintenant, au bout de 2012, disons, je pense qu'il a été remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de stabilisation dans l'est du Congo. Donc sur les ordres du Conseil de sécurité, sur l'instruction de la 2053, nous avons revu cette stratégie au sein de la communauté internationale et nationale, menée par le STAREC. Vous avez maintenant une nouvelle stratégie. En cours, vous avez toujours les projets première phase I4S, qui sont certains qui ne sont en cours, donc pas terminés, peu, et ceux qui ont été développés dans l'année 2014. Donc vous avez un volume de 59 millions de dollars, dont 24 millions qui ont été générés pendant l'année 2014. Si on prend les deux principaux, à peu près à hauteur presque de 5 millions de dollars sur Mambasa et Kalehe, vous avez donc là 8 millions. Ce sont des projets I4S de nouvelle génération, si vous voulez. Okay. La nouvelle génération, c'est une stratégie qui prend en compte les besoins des communautés, ce qui ne faisait pas partie de la première stratégie. Donc là, on prend les besoins des communautés et tout doit être approprié, si le gouvernement le décide, au travers du STAREC, ce qui est en cours en ce moment de se faire à Kinshasa. Pour votre information, les stratégies provinciales ont été signées ou sont passées au CTC en province orientale, Nord Kivu et Sud Kivu, la semaine dernière, pour les trois provinces. Donc maintenant, on est à Kinshasa. Ça se termine demain. Il y aura un point de presse. Vous êtes tous, bien sûr, les bienvenus. Et nous espérons ensuite pouvoir lancer sur des zones de conflit beaucoup plus larges par rapport aux deux projets qu'on a déjà lancés, Mambasa, Kalehe. Donc voilà où est-ce que nous nous tenons. Donc, si vous voulez, la stabilisation, c'est quelque chose d'assez récent. Vous avez le monde humanitaire, vous avez le développement, et vous avez maintenant quelque chose au milieu qui est en train de prendre forme à différents endroits, dans différentes opérations de maintien de la paix également, qui s'appelle la stabilisation. Donc, c'était un programme pionnier en 2008, qui a été bien réalisé, mais c'est vrai qu'il y a eu quelques lacunes. Ces lacunes ont été prises en compte, et maintenant, nous avons déjà engagé sur la deuxième phase. Merci.
Merci, et nous allons prendre la dernière question. Oui, notre ami qui lève avec insistance sa main depuis 10 minutes. J'espère que la question vaut son pesant d'or.
Merci beaucoup, c'est Isaac Ngwenza de la part de Congo Opportunities Media. Je pose ma question au porte-parole militaire. J'ai été à Masisi en 2005. J'ai interrogé les FDLR, mais c'est seulement les autochtones qui pouvaient distinguer les FDLR d'eux-mêmes. Ils se ressemblent à nous, ils sont des Bantous comme nous. Ma question est de savoir, à l'heure actuelle, j'ai suivi l'intervention de M. Sylvestre Moudingaï qui interpellait les FRDC à pouvoir identifier la cible lors des opérations pour ne pas confondre les FDLR avec les populations civiles. Ils sont entrés au Congo en 1994. Ils ont eu des enfants avec des Congolaises. Les enfants ont aujourd'hui 20 ans. Dans ces tracts, est-ce que vous vous attaquez aux parents et aux parents seulement ou les parents et les enfants? Parce que les enfants, selon la loi congolaise, la loi sur la nationalité, ils sont congolais sur les jus soli. Donc, quand vous faites la traque des FDLR, est-ce que vous distinguez les enfants des parents ou le tout? Parce qu'ils sont des Rwandais et d'autres ont eu des enfants avec des Congolais. Merci.
Merci. Votre
en
question.
Deux mots, hein,
oui,
colonel.
Votre question est très pertinente, mais je pense que lors de nos rencontres précédentes, nous avons, à corps et à cri, précisé que ces opérations qui sont lancées contre les FDLR ne concernent que les combattants FDLR. Pas les dépendants, pas les enfants, etc., comme vous semblez vous en inquiéter. Mieux, je vais vous dire, une cartographie précise a été établie aussi bien par la FRDC que la MONUSCO lors de nos planifications antérieures avant le lancement des opérations pour déterminer avec précision où se trouvent les camps des FRDC, où se trouve la chaîne logistique, quelles sont les pistes de ravitaillement, etc., un certain nombre de considérations purement militaires. Évidemment, vous avez raison d'évoquer la difficulté d'identification au contenu justement de cette fusion dans les populations civiles, mais je peux vous dire que certes, ceux qui porteront des armes, qu'ils aient 20 ans ou 25 ans, portent des armes de manière illégale et qui font partie de ce mouvement insurrectionnel, seront neutralisés comme tous les autres chefs qui ont 50 ou 70 ans. Hein. Mais tel est justement le but. Le but, c'est les neutraliser afin de les rapatrier.
Voilà, mais pour l'instant, comme vous le savez, nous ne faisons pas encore partie des opérations en tant que telles contre les FDLR, même si nous espérons pouvoir en faire partie très bientôt d'ailleurs.